Bonjour à tous, aujourd'hui dans les rendez-vous de l'UDAF, je me trouve en compagnie de Lorraine Contant, psychologue au sein de l'association Écoutille. Bonjour Lorraine.
Bonjour Élodie.
Lorraine, est-ce que vous pouvez nous parler de l'association Écoutille ? Quel est son objet ?
Alors c'est une association qui a été créée en 2018 et qui a pour but de donner des parcours de reliance pour des enfants qui ont vécu des ruptures, des deuils ou des séparations parentales. Alors j'explique tout de suite le mot reliance parce que je sais que souvent ça vient heurter. En fait, reliance c'est un terme qui a été créé par un psychosociologue, c'est se relier à son histoire. Donc à partir de ces événements qui sont souvent traumatiques, permettre aux enfants de comprendre ce qui s'est passé, de mettre des mots.
C'est pour aider les enfants qui ont vécu un deuil, une séparation.
C'est ça, un deuil ou une séparation parentale. Ce n'est pas les mêmes parcours. Ils sont bien sûr avec des fonctionnements un petit peu différents, mais c'est pour les aider à traverser, à comprendre ce traumatisme et cet événement.
Comment ça se déroule la prise en charge d'un enfant ?
Alors, en général, ce sont le ou les parents qui nous téléphonent et on va créer des groupes de niveau d'âge parce qu'on prend les enfants de 4 à 16 ans. Donc, évidemment, les petits restent ensemble et les grands ados restent ensemble. Il y a 4 enfants maximum par parcours avec 2 adultes qui sont formés. Donc, les parents nous téléphonent, on convient d'un rendez-vous et lors du premier rendez-vous avec le ou les parents, on va relever avec eux 1 ou 2 symptômes qui les inquiètent particulièrement en lien avec l'événement ou qui est apparu ou qui s'est beaucoup augmenté. Voilà, donc on le répertorie sur une échelle de 0 à 5, donc en général c'est au niveau 4 ou 5, et c'est ces mêmes symptômes qui vont être réévalués à la fin du parcours, donc au bout des 5 semaines avec les enfants, on revoit les parents 3-4 semaines après, et on va réévaluer ces symptômes pour voir quelle a été l'efficacité du parcours par rapport à ces symptômes.
Justement, si à la fin du parcours, on constate qu'il y aurait besoin de plus, est-ce que c'est possible de faire plus ?
Alors non, pas dans le cadre de notre association. Nous, vraiment, c'est un parcours. Souvent, les parents nous disent qu'ils ne peuvent pas recommencer, ils ne peuvent pas refaire parce que les enfants, ils ont créé des liens entre eux. Alors non, mais on va faire des propositions pour que l'enfant puisse continuer à être suivi, soit dans le privé, soit dans le public, ce qui aujourd'hui est très compliqué parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'attentes. Mais on a des adresses de professionnels dans le privé.
Et puis peut-être s'ils ont créé des liens entre eux, le fait de continuer à parler à un camarade qu'on s'est trouvé qui est dans la même situation que nous, ça peut les aider ?
Oui, alors je pense aux plus grands qui s'échangent évidemment leur adresse internet sur les réseaux sociaux et ils vont continuer à s'envoyer des nouvelles, voire à se voir pour certains.
2 activités principales au service des enfants et de leur famille, un parcours qui accompagne une séparation parentale, un autre pour accompagner l'enfant dans un deuil qu'il a vécu. Ce parcours qui suit un deuil, est-ce qu'il est forcément lié au décès d'un parent ou est-ce qu'on peut faire appel à vous aussi dans le cadre d'un décès d'un frère ou d'une sœur ou d'un oncle peut-être
Tout décès, et j'allais même dire quelquefois d'un animal. Pour certains enfants, suite à un déménagement par exemple, ils vont investir très fort une relation très particulière avec un animal et se retrouver dans un état de détresse très important et on va pouvoir travailler là-dessus. Donc tout décès, ça peut être un copain de classe, ça peut être quelquefois un enseignant, une nounou, voilà, tout ce qui fait que tout d'un coup le comportement de l'enfant change en lien avec cet événement.
Est-ce que vous pouvez nous détailler les séances de chaque parcours ?
Il y a 5 semaines avec les enfants, 5 séances qui vont se dérouler. Donc la première séance pour le parcours séparation, on va travailler sur J'ai 2 maisons, donc les 2 lieux et comment l'enfant se le représente. Donc on utilise beaucoup des choses assez ludiques au niveau des Playmobil et tout. Et puis bien sûr, on le fait parler. Qui habite dans la maison et toi, tu es où? Et quand tu regardes ces 2 maisons, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu ressens? La deuxième séance, on va travailler sur les émotions. Donc déjà, qu'est-ce que c'est une émotion? C'est où dans le corps? Et puis quand tu penses à la séparation, eh bien, qu'est-ce que tu ressens? De la colère, de la peur, du soulagement pour certains, parce que oui, quand la séparation a été trop difficile. Et voilà, pouvoir le dire et oser le dire. La troisième séance, on va aborder tout ce qu'on appelle un peu la notion de narcissisation, c'est-à-dire qu'on met les enfants devant un miroir et entre eux, ils vont se donner des qualités. Et puis, on leur accroche une petite étoile dans le dos, ils vont se mettre des qualités. Après, on va lire ces qualités, on applaudit et on met ces qualités dans un coffre à trésor où on va vraiment leur montrer qu'ils sont une belle personne et que certes, ils ont vécu des choses difficiles, mais qu'ils restent une belle personne. Et on demande aux parents de faire la même chose, de nous donner les qualités des enfants. Et en début de quatrième séance, on recommence un petit coude, on va lire les qualités, voilà, pour que l'enfant prenne conscience que ses parents ont beaucoup d'admiration et reconnaissent que leur enfant est quelqu'un qui a beaucoup de qualités. La quatrième séance, on va travailler sur ce qu'on appelle les plus et les moins. C'est très important. Chez papa et chez maman, il y a des choses positives, mais il y a aussi des choses qui sont plus difficiles. Et c'est très important de dire à l'enfant que des deux côtés, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre et que des deux côtés, il y a des choses qui vont bien et des choses qui sont plus difficiles pour éviter qu'il idéalise un parent et que du coup, il ait beaucoup de mal à investir le deuxième parent. Vous savez, un enfant, il va forcément se mettre du côté du parent dont il a l'impression qu'il va le plus mal et avoir le désir de se parentifier, de l'idéaliser, de le soutenir et tout. Donc surtout éviter ce positionnement-là qui pour les enfants n'est pas du tout une place d'enfant. Donc on va beaucoup insister sur des deux côtés, il y a des choses positives et des choses négatives. Et puis la dernière séance, c'est sur toutes les personnes ressources qui sont autour d'eux. Donc on les met, on prend un petit Playmobil qui les représente, ils vont mettre toutes les personnes ressources, bien évidemment les parents, les frères et sœurs, les grands-parents, les parrains-marraines, mais ça peut être les copains, et on va qualifier les liens. Donc il y a des liens très doudous, très agréables, puis des liens qui sont un petit peu plus rugueux, un petit peu plus raboteux. Donc on a des papiers différents, on a des laines différentes et on représente tout ça pour leur montrer que tu vois, tu es au centre de beaucoup de gens qui peuvent t'aider, sur lesquels tu peux t'appuyer. Toutes ces ressources, c'est important pour toi dans ce que tu vis.
Vous disiez que c'est pas mieux chez l'un que chez l'autre par rapport aux parents. C'est vrai que parfois, en plus, quand il y a une garde qui est déséquilibrée et qu'un parent bénéficie d'un week-end, bénéficie, c'est une façon de le voir, mais d'un week-end toutes les deux semaines, peut-être être plus facilement disponible et très investi pendant ce week-end, alors que l'autre parent va assurer l'école et les trucs pas drôles. Exactement. Peut-être chez maman, il faut faire les devoirs et chez papa, on est tranquille.
Voilà. Et chez papa, on va faire que des activités ludiques et tout ça. Voilà. Mais il y a aussi ce fameux conflit de loyauté avec le beau-parent et qui fait qu'un enfant peut ne pas oser investir une relation avec un beau-parent par peur de trahir l'autre parent. Donc ça, on va travailler là-dessus. Lui dire oui, ça sera jamais ton papa, ça sera jamais ta maman, mais tu as le droit d'être bien avec cette personne et d'avoir du plaisir à la retrouver et à faire des choses avec elle.
D'accord. Et les séances pour le parcours de deuil, du coup, elles se ressemblent ou...
Alors, le deuil, la première séance, on va travailler sur l'événement, pour être sûr que l'enfant a bien compris ce qui s'était passé. Et quelquefois, on a des surprises. C'est-à-dire que, en fait, le mot de mort n'est pas mis véritablement. Et donc, en fait, il ne sait pas. Moi, je me souviens d'un grand de 16 ans qui avait perdu son papa quand il avait 7-8 ans. Donc, il me raconte, il me dit, maman, elle est venue me chercher à l'école, j'arrive à l'hôpital, je monte dans la chambre et je lui dis, moi je vais te dire, je lui dis, tu as vu ton papa dans son lit et il était mort. Et il me regarde, il me dit, personne ne me l'a jamais dit. Il avait 16 ans, vous voyez, voilà. Donc ça c'est très important de voir comment il a compris l'événement. La deuxième séance, c'est la même que pour le parcours séparation sur les émotions. La troisième séance, très importante, beaucoup d'enfants, malheureusement, aujourd'hui, n'assistent pas à la sépulture ou à la cérémonie, au funérarium et tout, parce qu'on croit qu'on les protège ou n'ont pas été voir le corps au funérarium. Donc, en fait, on refait une célébration telle que l'enfant aurait voulu qu'elle soit. Donc, on a des grands bacs, plein de Playmobil, et on va créer cette cérémonie de sépulture ou de célébration, et il la présente aux autres. La quatrième séance, c'est un peu comme pour le parcours séparation, les plus et les moins de la personne décédée, pour éviter là aussi de la mettre sur un piédestal et de complètement l'idéaliser. Ben non, elle avait des défauts, et c'est normal. Donc on va reconnaître ça, on a plein de petits objets, donc les qualités, ça va être des perles très brillantes, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas très agréables. Maman, elle pouvait se mettre en colère. Bah oui, on a des pinces là qui font mal, et on va les mettre dans leur petit sac qui représente un peu leur héritage. Et puis la cinquième séance, c'est aussi beaucoup leurs ressources et les personnes de ressources autour d'eux.
Perdre un parent, c'est une épreuve terrible, même pour un adulte finalement. Dans ces conditions, on peut se dire aussi que c'est normal d'aller mal pendant un certain temps. Comment est-ce qu'on peut faire la part des choses et reconnaître les signes pour un enfant qui va mal et du coup qui a besoin d'aide, qui va plus mal peut-être que ce qu'il devrait ?
Tout ce qui change dans le comportement d'un enfant doit attirer l'attention. Parce que lui, il ne va jamais dire qu'il va mal. D'abord, il ne s'en rend pas compte. Et même s'il le sent, il est incapable de mettre des mots dessus. Donc, tout ce qui va changer dans son comportement. Alors, on connaît bien sûr les petits maux de ventre, les vomissements, la chute des résultats scolaires ou au contraire, le surinvestissement des résultats scolaires, les troubles du sommeil, les troubles de l'alimentation, le refus de jouer avec des copains. Tout d'un coup, il ne veut plus aller dormir chez un copain, il ne veut plus aller à un anniversaire. Il joue plus, voilà, tout ce qui fait que on se dit tiens, il y a quelque chose qui va pas, et bien ça doit alerter.
D'accord, est-ce qu'on peut vous appeler pour faire peut-être une préévaluation, savoir si il y a besoin ou il n'y a pas besoin?
Alors oui, bien sûr qu'on peut nous appeler, mais j'allais dire tous les enfants qui ont vécu ce genre d'événement, que ce soit une séparation ou un deuil, ils devraient tous travailler là-dessus, parce que même un enfant qui, en apparence, va bien, souvent, il y a quand même des choses qu'il n'a pas compris, sur lesquelles il a du mal à mettre des mots, qui sont difficiles pour lui. Et de toutes les façons, ça va l'aider de pouvoir travailler là-dessus.
Est-ce qu'il y a un délai pour faire appel à Écoutille, par exemple on disait un enfant peut aller bien en apparence et puis finalement, 2 ans, 3 ans après, ça ressort. Il y a des choses qui ressortent. Est-ce qu'on peut faire appel à Écoutille 2 ans après un décès ?
Oui, complètement. On peut, d'autant plus que, alors, dans le cadre des décès, surtout quand c'est des petits, les petits-enfants, ils n'ont pas la notion du toujours et du jamais. La notion du temps définitif n'existe pas. Et donc, ils vont pouvoir intégrer peut-être que, maman est morte, papa est mort et qu'il ne reviendra pas. Mais tout d'un coup, à 7 ans ou 8 ans, il va se remettre à poser des questions ou il y a des symptômes qui vont réapparaître, et c'est normal. C'est normal parce que ça veut dire qu'il intègre le deuil dans une autre dimension et qu'à nouveau, il faut recommencer, il faut retravailler dessus et il faut pouvoir aller explorer ses émotions et voir ce qu'il a compris. Et puis peut-être qu'il faudra encore jusqu'à 12 ans où apparaît cette notion du toujours et du jamais, du temps définitif, et là où il va véritablement pouvoir intégrer ce que veut dire à un décès dans sa vie.
Et pour les séparations parentales, c'est un peu pareil. Des fois, peut-être il y a une résurgence au moment où un des parents se remet en couple avec quelqu'un d'autre.
Tout à fait. Il peut y avoir un événement qui va faire, alors soit se met en couple avec quelqu'un d'autre, soit quelquefois ça arrive, une nouvelle séparation ou la naissance d'un frère ou d'un demi-frère, d'une demi-sœur. Et du coup, pour l'enfant, la difficulté qui réapparaît. Oui, mais lui, il a des vrais parents. Oui.
Il a ses deux parents en même temps.
Deux parents en même temps et moi, je voilà. Et on va pouvoir retravailler dessus ou travailler ce qui n'a pas été fait, ce qui n'a pas été fait à ce moment-là. Par rapport au délai, j'allais dire dans le cadre de la séparation parentale, il faut que la séparation soit effective, c'est-à-dire que les parents habitent chacun dans un lieu séparé. On ne peut pas faire un parcours avec un enfant quand il y a encore un des deux parents qui est là dans la maison, qui vient de temps en temps, qui n'a pas véritablement son domicile. Et pour le décès, on va attendre au moins 3-4 mois après l'événement, parce que là, c'est un tel tsunami au niveau de la vie familiale qu'il faut quand même que les choses se posent, s'apaisent, qu'il y ait ne serait-ce que l'organisation quelquefois matérielle puisse se mettre en place et que sur un plan émotionnel, on soit moins dans une urgence émotionnelle très, 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 très forte.
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est normal d'aller mal pendant un certain moment et il faut...
C'est normal d'aller mal, j'allais dire pendant au moins un an. Hein, alors même si notre fameux DSM-5 estime qu'au bout de 3 mois ou 4 mois, le deuil doit être fait, c'est absolument faux. Et c'est normal de revisiter toutes les étapes d'une année, les anniversaires, les fêtes, les saisons, à la lumière du deuil.
On va préciser, si vous voulez bien, ce que c'est le DSM-5 pour les gens qui nous écoutent.
Le DSM-5, c'est un répertoire, un annuaire, on va dire, sur lequel les médecins s'appuient pour faire une classification au niveau des maladies.
On a parlé beaucoup des enfants, parce que c'est eux qui sont au cœur de votre action. Est-ce que vous dispensez des conseils pour les adultes pour peut-être préparer un enfant à une séparation ?
Alors, on peut faire ça, entre autres, dans le dernier entretien. Hein. Quand le parcours a été terminé, qu'on revoit les parents, quelquefois, les enfants vont nous dire un certain nombre de choses. Et là, on peut faire un peu de guidance parentale, on va dire. Par exemple, je prends un exemple. Vous savez, un enfant dont les parents se séparent, il va tout faire pour essayer de faire que ses parents se remettent ensemble. Alors, il a une imagination débordante et il va essayer de créer des situations pour que les parents reviennent ensemble et tout. Et donc, vraiment dire aux parents, dans un premier temps en tout cas, il faut que la séparation soit effective. Ne vous retrouvez pas tous les dimanches ensemble pour faire un pique-nique ou pour faire un repas, parce que l'enfant ne comprend pas que sa famille va avoir du mal à accepter que sa famille, non, elle ne fonctionne plus de la même façon. Alors, on peut se retrouver exceptionnellement pour un anniversaire, pour d'un enfant, mais pas de manière systématique. Voilà. Y compris quand c'est souvent la garde alternée, essayer que les parents restent des adultes et n'utilisent pas l'enfant comme boîte aux lettres, transmettre des messages, mais puissent se retrouver et parler ensemble des enfants, de leur éducation. Et puis que ce passage où l'enfant va passer d'une famille à l'autre, essayer d'en faire un rituel dans lequel il va se sentir bien et pas laisser sur un bout de trottoir avec la valise qu'on jette encore quand il y a une valise qu'on va jeter à l'autre parent. Voilà, essayez que ça se passe de manière humaine et le mieux pour un enfant.
Oui, parce que c'est pas agréable de se sentir objet du conflit finalement.
Exactement.
Combien ça coûte pour les familles de faire appel à Écoutille ?
On est subventionné par la CAF et puis un certain nombre d'autres organismes. Donc la totalité du parcours revient à 25 euros pour un enfant. Quand il y en a plusieurs, si la famille ne peut pas payer par enfant, on fait une totalité de 25 euros pour la famille.
Donc ça reste une somme accessible à la plupart des familles, heureusement j'ai envie de dire. Merci beaucoup, Lorraine. Est-ce que vous voulez bien nous donner les coordonnées auxquelles on peut vous contacter si on pense qu'on a besoin de vous?
Oui. Alors, on a déjà un site internet qui s'appelle Écoutille 86. Et donc, en tapant ça, vous tombez dessus. Une page Facebook et une page Instagram, pareil. Et sinon, je vous donne un numéro de téléphone 06 15 20 16 49 sur lequel, en fait, c'est directement mon numéro de téléphone. Et moi, je peux vous réorienter en fonction du lieu où vous habitez. On a 5 pôles aujourd'hui sur la Vienne. Et en fonction du lieu où vous habitez, quel sera le pôle qui sera le plus près de chez vous?
Merci. Donc, c'était Lorraine Content, psychologue pour l'association Écoutille. Si vous n'avez pas eu le temps, parce que vous êtes en voiture, peut-être de noter les coordonnées, vous pouvez contacter bien sûr la radio Style FM. On fera un plaisir de vous les transmettre. Bonne journée à tous. Au revoir.
Merci.